Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine dans l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et c'est aujourd'hui notre dernier rendez-vous avant l'été qui se profile à grands pas. Pour les plus chanceux d'entre vous, dans quelques jours, je vous prendrai la route des vacances. Pour les autres, il faudra encore attendre 2 ou 3 semaines, voire 1 mois. Pour vous aider à patienter, Divergence FM et l'Université de Montpellier vous offrent ce moment de détente. Vous êtes allongé sur la plage. Vos doigts égrènent le sable chaud. À travers vos paupières fermées, le soleil irradie une lumière chaude et rouge. Vous sentez la crème solaire. À quelques mètres de vous, une meute de goélands se dispute les restes d'un sandwich au thon oublié par une fillette distraite. Vous êtes bien. Vous ouvrez les yeux pour plonger le regard dans la grande bleue, juste là, devant vous. Tendez l'oreille. Par-dessus le cri d'enfants et des vendeurs de beignets, elles viennent jusqu'à vous. Une vague. 2 vagues, 3 vagues, 4, 5, 6, et ouais, vous la voyez venir, hein ? La 7e vague, celle des courbes qui remontent, des amis super positifs qui annulent le dîner, de la maîtresse de Juliette encore absente et du billet d'avion pour le Maroc qui s'envole sans vous. Après le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France voit à son tour les contaminations au Covid-19 repartir à la hausse. Plus 57% en Europe depuis 2 semaines, plus 203% à Malte, plus 162% aux Pays-Bas et au Luxembourg, plus 118% en France. Alors je vous entends déjà. Ah non, ça suffit, je ne veux pas en entendre parler. Eh ben si, on vous en parle, mais promis, on ne fera pas de catastrophisme, juste de l'information, de la vulgarisation, pour justement ne pas se laisser dire tout et n'importe quoi. Et parce que nous avons la chance d'avoir avec nous un des modélisateurs français les plus calés sur la question, nous en profiterons pour revenir sur ce que lui et ses collègues ont vécu ces 2 dernières années, pour comprendre ce que cette crise a changé dans le métier et la vie de ces chercheurs, soudainement contraint à s'exposer aux médias un peu plus qu'il ne l'avait imaginé. Mircea Sofonea, pardon, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors vous êtes un habitué d'Allume la science, c'est la 2e fois qu'on vous reçoit et on est très contents. Ce n'est pas sur les vagues mais sur les ondes qu'elle surfe chaque semaine avec moi pour mener cette interview, la rideuse Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors Mircea Sofonea, on avait présenté Omicron comme une vague presque salutaire, la dernière, celle qui marquait l'affaiblissement du virus, et puis badaboum, en voilà une 7e. Comment elle se présente cette vague? Est-ce qu'elle est différente des précédentes?
C'est vrai. Quand Omicron est arrivé fin d'année dernière, donc en décembre, novembre-décembre 2021 en France, on l'a montré comme le train qu'il faut prendre pour arriver plus vite à en finir avec le SARS-CoV-2. Donc à l'époque, c'était Omicron BA1. Et puis, voilà, les sous-variants, même si c'est un terme impropre, mais on pourrait les qualifier ainsi, compte tenu de la nomenclature, on en parlera, je pense, se sont succédés. Et BA4 et surtout BA5 sont en train d'induire une reprise épidémique qui est visible par tous, non seulement sur les chiffres officiels nationaux, mais aussi dans notre entourage. On voit de plus en plus de personnes effectivement être positives. Cette vague, elle sera de plus forte ampleur que celle plus modérée qu'on a pu connaître au mois de mars dernier. Mais pour le moment, il n'y a pas de signal pour qu'elle soit, on va dire, aussi importante en termes de contamination que celle de janvier, parce que nous sommes en été, et en été, nous sommes davantage à l'extérieur. Pour ce qui est de sa traduction hospitalière, c'est quand même essentiel, vu que pendant 2 ans et demi, nous avons vécu avec ce critère-là, c'est encore incertain. Il y a évidemment un manque de recul. Concernant par exemple la virulence de BA5, ne pense pas qu'il soit aussi virulent que Delta, mais il y a, on le sait, des tensions hospitalières qui sont déjà connues, par exemple, dans certains services d'urgence. Le cas de Bordeaux, du CHU de Bordeaux, a été beaucoup médiatisé. Et donc, ce n'est pas les mêmes seuils qu'il faudra appliquer en termes de tensions hospitalières. L'été, les hôpitaux sont en sous-effectif. Les équipes sont éprouvées. Et donc, dans ce cadre-là, il faudra être vigilant au cas par cas, donc, pour éviter d'avoir des situations difficiles pour les soignants et pour les patients.
Alors, vous l'avez évoqué, on va parler un tout petit peu de nomenclature. La dernière fois qu'on vous avait reçu ici, vous aviez regretté le côté stigmatisant des noms de variants anglais, brésiliens ou sud-africains. Donc, les derniers variants en question, on l'a dit, ils se nomment BA1, BA2, BA4. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres et ces lettres? Comment est-ce qu'on les détermine, ces noms de variants?
Il s'agit d'une des nomenclatures, en fait, il y en a même plusieurs. Les lettres grecques sont définies par l'OMS qui décrète qu'il s'agit d'un variant préoccupant, c'est-à-dire une forme, avant on aurait parlé de souche, le terme variant s'est imposé, une souche du virus SARS-CoV-2, c'est toujours le même virus, qui présente des propriétés particulières, soit épidémiologiques, soit cliniques ou même vis-à-vis de différentes thérapeutiques, et ces propriétés peuvent être cumulées. Il n'y a pas eu de mise à jour par l'OMS de la nomenclature dans le cas des nouvelles lignées d'Omicron. Donc en fait, le variant demeure officiellement Omicron, mais c'est en fait tout un groupe qui présente plusieurs lignées. Et pour nommer, pour les distinguer, eh bien, on fait référence à d'autres nomenclatures que celles de l'OMS qui existaient avant. Et qui, elles, sont en revanche plus fidèles à la biologie évolutive, puisque, elles font référence à des clades, c'est-à-dire un ensemble de lignées, de branches, en fait, dans l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire de diversification du SARS-CoV-2. Et quand on parle de BA, en fait, BA1, c'était le premier Omicron que nous avons rencontré en France, et le premier aussi qui a causé la vague décrite, c'est là où il a été décrit en Afrique du Sud, mais BA1, Omicron BA1, était, on pense, à émerger dès le printemps 2020. Actuellement, BA4 et BA5, on pense qu'ils ont émergé, ce sont les collègues sud-africains qui l'ont montré, à la fin de l'année 2021. Donc BA4 et BA5 ne sont pas si nouveaux que ça, ils existaient déjà avant, mais c'est maintenant qu'ils prennent le pas en France.
C'est juste à chaque fois une branche différente, une lignée différente.
Exactement, 1, 2, c'est 4, ça. 5. Et il existe une autre nomenclature d'ailleurs, où là, en revanche, c'est un chiffre, un nombre en fait, puis une lettre. Actuellement, nous sommes dans le groupe 22 A, B et C, on va dire comme variant Omicron, sous-variant Omicron dans le monde. Voilà.
D'accord, et donc on a un BA 1, 2, 4 et 5. Et le 3, il est où?
Bien sûr qu'il existait, le 3.
D'accord,
tout à fait, on n'a pas sauté, il a bien existé. On ne sait pas si c'était un recombinant entre BA1 et BA2, donc c'est-à-dire un mélange entre deux, ou bien un mutant de BA2. Le fait est qu'il n'a pas pris le pas autant que BA4 et BA5 ou que BA2 en France, mais il a bien eu une petite vague virologique, donc pas une vague épidémiologique, mais au moins il a augmenté en fréquence en Afrique du Sud. Oui.
Et justement, vous parlez de recombinants, est-ce que tous ces variants, c'est à chaque fois des recombinaisons de ce qu'on a vu avec les virus qui existaient précédemment?
C'est pas clair, c'est-à-dire que parfois les différences sont vraiment marginales, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit d'une seule mutation. Parfois, elles sont plus importantes avec des chevauchements en fait, dans le groupe de mutations partagées, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit d'un mélange, c'est-à-dire en fait, on rebat les cartes du génome à partir de morceaux existants. Et donc ça veut dire qu'il y a eu une co-infection, c'est-à-dire un patient infecté par deux souches, deux sous-variants, dans une cellule, en fait, les deux virus, les deux génomes se sont retrouvés et ont réalisé en fait cet événement de recombinaison, c'est-à-dire une agrégation de morceaux d'origine différente.
Alors, on entend beaucoup dire dans les médias que cette nouvelle vague, elle est justement liée au relâchement des gestes barrières, à la fin du port du masque dans les transports. Est-ce que c'est le cas?
Alors, évidemment, d'un point de vue purement sanitaire, ça c'est quand même désormais bien établi, que les gestes barrières ont un intérêt sur constituent une prévention efficace. Le masque, tout comme la distanciation sociale, l'effort de dépistage qui induit ensuite l'isolement et le traçage des contacts, et donc l'extinction des chaînes de transmission, tout cela marche. Quand il y en a moins, forcément, on favorise la transmission. Mais ce n'est pas ça qui est le facteur principal ici, c'est bien le déclin immunitaire. Le déclin immunitaire, c'est la baisse de protection conférée par le dernier événement immunogène, soit une infection, soit une dose de vaccin, qui baisse au cours du temps, beaucoup moins vite concernant la protection vis-à-vis des formes graves, qu'on estime, là ce sont les données que l'on a les plus récentes de l'agence sanitaire britannique, UKHSA, à savoir qu'il y a une protection d'au moins 75, voire 85% contre les formes graves à 3 mois et demi, mais en revanche, donc là je parle d'une dernière dose de vaccin, mais à 5 mois par exemple, il n'y a plus que 10% d'efficacité vis-à-vis d'une réinfection. Ça veut dire qu'il y a au bout d'un moment la possibilité, en fait l'ingrédient principal qui est la susceptibilité populationnelle, le complémentaire de l'immunité collective, qui se reconstitue et qui permet une nouvelle vague. Se rajoute ici une composante supplémentaire qui est l'échappement immunitaire de BA5 et de BA4, surtout BA5 apparemment, qui du coup anticipe cette vague. Elle aurait été causée par BA2, là c'est BA5 parce qu'elle aurait été causée par BA2 plus tard, à l'automne, mais là c'est BA5 parce qu'il a un échappement immunitaire.
Et donc du coup vous en parlez de ce déclin immunitaire, du coup d'après vous est-ce qu'il serait nécessaire de faire un rappel, de lancer un rappel vaccinal?
Compte tenu des risques qui sont en fait, si vous voulez, l'intérêt des mesures, en particulier des mesures pharmaceutiques, ici la nouvelle dose de vaccin, elle s'évalue aussi en fonction du risque infectieux et donc du taux d'incidence, du niveau de circulation du virus et du risque potentiel pour la personne qui se vaccine. Pour les personnes vulnérables, effectivement, face à un rebond épidémique et parce qu'on sait qu'il y a un déclin, ou même y compris concernant la protection vis-à-vis des formes graves, on a du mal encore à l'estimer pour BA4, BA5, eh bien, c'est tout à fait indiqué. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement en France avec une campagne, même si elle est malheureusement pas suffisamment vite. Pour les personnes qui sont moins vulnérables, la question peut se poser. Pour le moment, les autorités ne recommandent, on va dire, ne poussent pas à cette vaccination, c'est évident. Et d'un point de vue épidémiologique, c'est un cas à dire qui pose question, parce que théoriquement, il faudrait se vacciner plusieurs fois. En fait, si on est deux fois par an, ça, ce sont les modèles de notre doctorant en commun, à Samuel Alizon et à moi, Bastien René, qui travaille sur les distributions empiriques de déclin immunitaire estimées par des collègues britanniques, et qui montre que si on ne veut pas avoir à nouveau des gestes barrières, typiquement le port du masque, la distanciation sociale, etc., eh bien, il faudrait deux doses, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si on restait avec des sous-variants comparables à ceux d'Omicron par an, pour avoir un niveau d'hospitalisation annuel qui soit plus faible quand même que celui éprouvé en 2021. Et donc, ça veut dire que pour les personnes non vulnérables, combien de doses sont-elles prêtes à accepter par an ? Ce phénomène de lassitude qui est de mieux en mieux décrit dans la littérature, il faut le prendre en compte. Il est peut-être préférable d'attendre qu'une vague qui serait peut-être plus importante, favorisée par la mauvaise saison, les jours plus courts, plus froids, donc à l'automne, pour prémunir si la population, on va dire, plus jeune est prête qu'à une seule dose de rappel par an.
Alors cet échappement immunitaire ou cette évasion immunitaire, est-ce qu'elle complique votre travail de modélisation justement ?
Oui, elle complique le travail de modélisation de toutes les équipes, c'est clair. J'en parlais justement avec, il y a deux semaines, j'étais à la Royal Society à Londres et je parlais avec Adam Kucharski qui est justement un des figures véritablement de la modélisation et de l'épidémiologie quantitative à London School of Hygiene and Tropical Medicine. Très actif aussi en diffusion scientifique et sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup contribué à vulgariser les aspects de l'épidémiologie et de modélisation dans la sphère anglophone, que leur travail s'oriente justement maintenant sur la façon de capturer au mieux cette diversité, ce qu'on pourrait appeler d'immunité hybride, à savoir une population qui n'a plus rien à voir d'un point de vue immunologique à celle de janvier-février 2020, une population qui a eu plusieurs événements de vaccination, d'infection, à des moments différents, par des variants différents, voire par des vaccins différents, c'est encore plus vrai au Royaume-Uni. Et en plus, ce sont des histoires immunologiques qui divergent de plus en plus entre les pays. Donc les comparaisons même entre pays deviennent de plus en plus difficiles et en fait de moins en moins informatives si on regarde uniquement les données brutes. Et ça veut dire que les modèles, maintenant, ils doivent s'accommoder de beaucoup plus de processus à l'œuvre, de degrés de liberté, avec des données qui ne sont pas forcément connues ou disponibles au moment où un nouveau variant ou un nouvel événement, une nouvelle campagne vaccinale arrive. Oui.
Alors, on parle beaucoup de modélisation aujourd'hui. Vous, Mircea, vous êtes épidémiologiste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est que cette discipline et peut-être nous décrire un peu ce que c'est que le quotidien d'un épidémiologiste en dehors du Covid ?
Tout à fait. L'épidémiologie, si vous voulez, au sens le plus large possible, ça dépasse les maladies infectieuses. Pour ma part, je suis spécialisé dans l'épidémiologie des maladies infectieuses ainsi que leur évolution. Et l'intérêt, justement, c'est de combiner deux. On le voit, car sur la première année de la pandémie Covid, c'était essentiellement de l'épidémiologie avec des interventions non pharmaceutiques. Et puis est arrivé le variant alpha et on est rentré dans l'ère de la virologie évolutive. Et actuellement, ce qu'on observe, c'est véritablement l'évolution virale qui est le moteur de l'épidémie. Et c'est la santé publique qui en subit les conséquences. D'un point de vue, donc, on va dire le plus large possible, l'épidémiologie, c'est l'étude des déterminants de santé dans le temps et dans l'espace. Et pour ce qui concerne l'épidémiologie des maladies infectieuses, c'est la quantification de la propagation d'un pathogène dans une population qui peut être soit descriptive, essayer de quantifier la contagiosité, la létalité, éventuellement l'impact d'intervention pharmaceutique ou non, mesurer une efficacité vaccinale en population réelle par exemple. Et puis cela peut aussi permettre de réaliser, mais là c'est davantage le volet modélisation, des contrefactuels, essayer d'explorer des scénarios alternatifs pour orienter l'aide à la décision ou même pour permettre l'anticipation de besoins sanitaires comme ce que nous réalisons hebdomadairement pour le CHU de Montpellier.
Alors, qu'est-ce que ça a changé, justement, cette pandémie dans vos conditions de travail? J'imagine que c'est plus d'heures. Est-ce que c'est plus d'argent pour la recherche? Est-ce que c'est plus de publications? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces deux dernières années?
Plus d'heures, évidemment. C'était très intense. Les premières semaines du confinement, compte tenu de grand nombre d'inconnus et de la nécessité absolue d'avoir une estimation du pic et donc à la hauteur du pic et sa date le plus précisément possible en termes hospitaliers, puisque c'était l'enjeu en particulier dans le Grand Est et en Île-de-France. Nous étions à peu près autour de 100 heures de travail par semaine, ça c'est vrai, et des périodes comme celle-ci se sont répétées, alors particulièrement au moment où de nouveaux variants émergeaient, de nouvelles données étaient disponibles, etc. Bien sûr, plus de publications parce que, étant donné que le sujet était inconnu, en fait, ou était, on va dire, il y avait énormément de questions qui se posaient et des méthodes que nous maîtrisions avant cette pandémie. Nous travaillions, par exemple, sur VIH, papillomavirus ou Ebola. Et donc, il y avait un potentiel véritablement de transposer ces méthodes-là et de les appliquer, mais bien sûr en ayant pris en compte toutes les spécificités de cette pandémie et même en traitant de questions nouvelles pour nous, comme l'efficacité du confinement. Ça, par exemple, c'était quelque chose que nous n'avions pas du tout considéré dans des études précédentes. Et c'est vrai, le confinement est quelque chose d'absolument inédit. Et c'est vrai que cela a donné lieu à beaucoup de nombreuses publications. J'ai même du mal à vous dire, on a dépassé les 23, 24.
Ah oui, d'accord, en deux ans, donc c'est énorme.
Maintenant, En termes de financement, c'est une autre paire de manches, et c'est, je dirais même, une déconvenue, puisque jusqu'à présent, on n'a pas eu, mis à part un soutien de la région au tout début, en fait, de la première vague, disons, on va dire, le premier appel flash Covid de l'ANR, et mis à part un soutien supplémentaire de l'Université de Montpellier, ensuite, on a été... malheureusement refusé à de nombreuses reprises, et même avec des partenariats qui étaient pertinents, comme avec le CHU de Montpellier, un projet sur les animaux domestiques, et des mois plus tard il y avait des publications sur ce sujet. On sait maintenant que les animaux domestiques, voire le bétail, peuvent les animaux sauvages peuvent constituer un réservoir de ce SARS-CoV-2. Donc on a du mal à comprendre, tout à fait, parce que les publications, les résultats sont là, les modèles sont là, les logiciels en libre accès sur data.gouv sont présents, et la diffusion scientifique aussi, c'est-à-dire l'accès en fait à transmission de ces résultats directement auprès du public, mais aussi auprès des acteurs de la santé, qu'il s'agisse des autorités ou des centres hospitaliers.
Alors justement, vous parlez de diffusion scientifique, on l'a dit, vous avez été très fortement médiatisé pendant cette période. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'interviews que vous avez données sur le Covid ?
Et là, j'ai une idée du nombre parce que je dois le faire pour les rapports d'activité. Il s'agit maintenant d'un item consacré dans les différents appels à projets. Et donc, oui, à titre personnel, là, je dois dépasser les 800 mentions dans les médias. Essentiellement, il s'agit de la presse nationale, généraliste. Et il y a aussi un peu 150 interventions télévisuelles. Et c'est dommage, c'est vrai que on a l'impression quand même que la télévision présente un aspect plus, on va dire, une plus grande portée. Alors même que les réponses doivent être extrêmement concises, alors que les propos peuvent être beaucoup plus développés dans la presse écrite. Ce qui donne effectivement, ouvre pas mal de questions en tant que scientifique par rapport au rapport aux médias.
Vous y étiez habitué avant ça, à ce rapport avec les médias, avant le Covid, où vous échangez régulièrement avec les journalistes ?
J'ai toujours une activité de diffusion scientifique, c'est vrai. Mais pas du tout à ce niveau-là, pas du tout à cette intensité, et surtout pas sur une telle durée. Par exemple, j'étais le responsable au sein du comité d'organisation du plus grand congrès de biologie évolutive qui a eu lieu en 2018 à Montpellier, au Quorum, en août 2018. J'étais responsable de la vulgarisation. À cette occasion, j'ai piloté pendant un an des événements de vulgarisation autour de la biologie évolutive à Montpellier. En partenariat avec le rectorat, par exemple, on a mis en place une formation des enseignants qui a donné lieu à un ouvrage dont vous avez parlé dans cette émission il y a quelques mois, et puis une rencontre entre le public et les chercheurs au rectorat. Donc l'activité de diffusion pour moi a toujours été essentielle, et quelque part le Covid a été l'occasion en fait de s'inscrire dans cette démarche. Je n'avais absolument pas du tout l'idée ou l'intuition que ça allait être aussi important. Au début, j'avais à cœur de former les journalistes des rédactions qui ne disposaient pas de services sciences ou santé, pour que, on va dire, ils utilisent le bon lexique et la bonne analyse critique à un moment donné où il y avait quand même beaucoup de divergences entre les experts invités.
Et est-ce que ça vous a amené justement à changer votre rapport aux médias, peut-être à exiger certaines conditions pour parler, peut-être
Très souvent, ces conditions donnent lieu ensuite à un refus, voilà, tout simplement. Donc il y a toujours d'autres spécialistes qui sont moins regardants et du coup acceptent. Donc il m'arrive évidemment de refuser des sollicitations. J'essaie de demander par exemple qui sont les autres intervenants. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que je prenne des pauses médiatiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on retrouve ensuite des discours qui ne sont pas informés par la science et la recherche. Voilà, tout simplement. Et ça, maintenant, c'est bien connu, ça a été bien établi. Dans les pays où la pédagogie L'éducation à la santé, qu'elle soit en amont ou au moment du Covid, a été renforcée. Eh bien, l'efficacité des mesures, même de l'ensemble des politiques sanitaires, était potentialisée, était améliorée. Donc, ça veut dire que quelque part, les scientifiques ont un rôle à jouer dans cette pédagogie, dans cette éducation, puisqu'ils ont un rôle indépendant vis-à-vis des autorités et ils sont présents pour donner, faire l'état de l'art. Et c'est vrai qu'au début, les médias pouvaient interroger tout le monde, parce que personne n'avait de diplôme en Covid. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal avec les médias qui continuent à inviter personnes qui n'ont jamais rien publié sur le Covid. Et le problème, c'est que je demande souvent aux rédactions de faire de leur côté une rétrospective sur quelles ont été les déclarations des différents experts et voir si cela s'est réalisé, quelles ont été leurs réalisations personnelles sur le Covid, parce qu'autrement, eh bien, à chaque vague, j'ai l'impression d'avoir exactement les mêmes écueils, de devoir répondre absolument aux mêmes questions, et donc de ne pas avancer collectivement vers une culture de la virologie, de l'épidémiologie, qui nous permettrait d'être aussi plus sereins.
Donc vous êtes scientifique, plus précisément vous êtes enseignant-chercheur. Comment est-ce que vous avez fait pour mener de front votre charge d'enseignement en même temps que cette suractivité liée à la pandémie ?
Oui, c'était vraiment pas facile. Là, ça a été un immense défi. Alors bien sûr, ça passe par des nuits très courtes, mais c'est aussi parce que je savais où je voulais aller. Il faut savoir qu'en plus, c'était d'autant plus difficile que cette année, il y avait le renouvellement des maquettes. Et moi, une de mes des composants de ma charge en tant que co-responsable des programmes de mathématiques, statistiques,
le renouvellement des maquettes, vous parlez des maquettes des formations.
Des maquettes des formations. Les programmes ont complètement changé cette année. Voilà, c'était ce qu'on appelle le LMD5. Et donc, au niveau de la faculté des sciences, les cours pour les biologistes du L1 au M2 en mathématiques, statistiques, informatiques, modélisation, on avait coécrit ces programmes, en tout cas, la structure de ces programmes avec ma collègue Céline Devaux, et donc il fallait les mettre en place. Dans cet ensemble d'unités d'enseignement, j'en avais ma part effectivement, et beaucoup de choses devaient être écrites de novo cette année. Donc ça a été effectivement très dur, d'autant plus que j'avais pas de décharge particulière du fait de mon activité Covid. Et ça, c'est vrai que mener les deux de front, c'était difficile parce que j'avais par exemple au mois de novembre 3 semaines où je donnais cours le matin et l'après-midi en permanence, alors que derrière il y avait la remontée de Delta qu'il fallait continuer à assurer. Et le problème, c'est que en n'ayant pas de financement spécifique, bien c'est pas le reste de l'équipe qui peut prendre en charge, puisque l'équipe fonctionne à peu près à taille constante. En fait, on n'a pas beaucoup plus de moyens supplémentaires par rapport à avant. Maintenant, les premiers financements se sont déjà écoulés.
On arrive quasiment au terme, il nous reste 2 minutes. Je vais vous poser juste une dernière question. Hier, au lancement donc du grand projet MedValley de la métropole, projet de pôle médical, une intervenante affirmait que le Covid avait permis une prise de conscience de ce que c'était que la santé globale, qu'il avait entre guillemets remis les pendules à l'heure. Est-ce que en une petite minute, vous pouvez me dire si vous pensez que c'est vraiment le cas ?
Tout à fait, ça c'est essentiel. La santé globale, en fait, c'est l'ensemble des déterminants de la santé, mais au-delà même de la sphère proximale de l'humain, c'est aussi les écosystèmes. Et ça, finalement, c'est le cahier des charges de la biologie, de la biomédecine au sens le plus large possible, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes qui affectent notre santé dans toutes ses composantes. Et ce, depuis même les réservoirs animaux et même les plantes, puisqu'on parle aussi d'alimentation. Donc ça, c'est un enjeu. Et le Covid a fait prendre conscience, d'un point de vue très particulier, que même les pays développés, même en France, eh bien, les maladies infectieuses constituent un risque sanitaire. Et c'est bien à cause d'un virus apparu en Chine que nous avons connu des événements inédits comme le confinement. On voit bien à quel point la compréhension du monde vivant dans son intégralité est essentielle, et cela avait été quand même pas mal oublié dans les dernières décennies.
Un grand merci à vous pour ces explications très claires. Vous allez prendre un peu de vacances cet été ?
Un peu, oui.
Un peu, on vous le souhaite. Donc Allume la science, c'est fini pour la saison. Un grand merci à Adeline Flock, Anna de Belandre et Bruno Bertrand qui nous ont accompagnés à la technique tout au long de l'année. On se retrouve à la rentrée et d'ici là, pensez à débrancher.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.